Ses semblables trouvent ce repos dont elles ont tant besoin. Son langage est direct et clair, et son avertissement retentit comme un glas. Écoute, terre, voici je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées, car ils n'ont point été attentifs à mes paroles, ils ont méprisé ma loi. Les prétentions de son peuple d'adorer Dieu, de l'aimer et de l'honorer sont vaines, car il ne suit pas le sentier que Dieu lui-même lui a tracé. Qu'ai-je besoin de l'encens qui vient de ses bas, du roseau aromatique d'un pays lointain? Vos holocaustes ne me plaisent pas, et vos sacrifices ne me sont point agréables. Ce cri d'indignation émanant de Dieu s'inscrit dans l'être de feu dans notre monde moderne. L'étalage public d'une splendeur extérieure et le faste d'une prétendue soumission à Dieu sont absolument vains si nous ne marchons pas dans les anciens sentiers de la volonté divine. Tous les soi-disant cultes rendus à Jésus-Christ, toute la soumission artificielle au Maître, l'érection des cathédrales les plus grandioses, des temples, des chapelles et des clochers les plus magnifiques, ne changeront rien à ce que dit Ésaïe. Nous sommes tous des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Ce n'était pas leur vertu en tant que telle qui les couvrait comme un vêtement souillé, mais le fait qu'ils offraient à Dieu ces actes extérieurs de vertu tout en vivant dans l'iniquité qu'ils revêtaient d'un vêtement souillé. L'apôtre Paul, en écrivant aux chrétiens de Galatie, leur lance également, plusieurs siècles plus tard, un cri d'alarme tout aussi poignant. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Nous voyons ce même principe attaché au Nouveau Testament. Ceux qui refusent de se maintenir sur le chemin de la vérité évangélique se verront rejetés sans rémission par le ciel. Il n'existe aucune reddition par Christ, aucune résolution de s'en remettre à lui qui ne passe par les anciens sentiers de l'Écriture. Le Sauveur pose à chacun une question lourde de sens lorsqu'il demande en Luc 6, 46 « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Ces anciens sentiers nous appellent tout simplement à faire la volonté de Dieu. Le salut de l'homme dépend de plusieurs faits fondamentaux, et je vous propose d'en passer plusieurs en revue. Nous devons, par exemple, baser notre foi sur la véracité de la naissance virginale de Christ. En Ésaïe 7, Dieu dit à Achaz, « Demande en ta faveur un signe à l'Éternel, ton Dieu. Demande-le. » Achaz répondit, « Je ne demande rien. » Je ne tenterai pas l'Éternel. Ésaïe dit alors, écoutez donc, maison de David, le Seigneur lui-même nous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Environ 7 siècles et demi plus tard, cet événement va se concrétiser lorsque l'ange va annoncer cette merveilleuse naissance à Joseph, le fiancé de Marie. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et il est même ajouté dans l'Écriture, « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » En Luc 2, nous est raconté la naissance de Jésus. Sur la vérité de cette prophétie repose l'espérance et les rêves de plusieurs milliards de gens, aussi bien dans le passé que dans le présent et le futur. Nous devons y croire et même soumettre notre foi tout entière aux promesses d'une vie future dans un endroit où aucune tristesse ne pourra jamais nous atteindre. Il n'est pas plus difficile de croire à la naissance virginale de Jésus et de l'accepter que de croire que Dieu possède la puissance de reproduire les humains par le moyen de ce que nous appelons le processus naturel de la loi physique. Le pouvoir qui permet de reproduire la vie vie humaine peut également provoquer la naissance de Jésus chez une vierge nommée Marie, épouse de Joseph, ne pensez-vous pas? Nous croyons également à l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Par elle était promis la restauration du royaume de David, sur lequel devait régner sa postérité, et l'établissement de l'Église au nom de l'Éternel. En 2 Samuel 7, 12 à 13, Nathan dit à David, « L'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. » Cette double prophétie s'est accomplie. Elle est devenue une réalité vivante. Ce même passage de l'Ancien Testament est cité par Pierre en Acte 2 lorsqu'il dit concernant David, comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Puis il ajoute dans le verset 36, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur le Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Au moment où Pierre parle, le Fils était ressuscité et était retourné auprès du Père. Il était assis sur le trône de David et avait été fait Seigneur, c'est-à-dire souverain ou roi, ainsi que Christ. Ainsi, son royaume avait été établi comme promis par le prophète il y avait bien des siècles. Ensuite, au verset 47, il dit, « Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Le royaume et l'Église existent donc à ce moment-là. La seule maison que Christ ait jamais bâtie au nom de l'Éternel est l'Église. Ces vérités vitales devraient être profondément ancrées dans l'esprit de chacun. Elles devraient nous amener tous à croire que les prophètes de Dieu n'étaient pas de faux prophètes, mais qu'au contraire, leurs prophéties se sont bien accomplies en Christ, le Fils de Dieu. Peu après sa résurrection, Jésus dit à ses apôtres, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Ceci nous incite à croire à l'inspiration divine des Écritures. Il s'agit d'une chose absolument fondamentale. L'accomplissement de ces prophéties, ainsi que la Bible dont l'inspiration divine par le Saint-Esprit, ne devrait faire aucun doute, car elles font partie intégrante de ces anciens sentiers dans lesquels Jérémie nous insiste à marcher pour la plus grande paix de notre âme. Il est une autre vérité fondamentale que nous ne devrions jamais perdre de vue, et c'est le fait que tout ceci a commencé dans la ville de Jérusalem, la première Pentecôte après la résurrection de Jésus. Durant les siècles qui se sont écoulés depuis, les débuts du christianisme, les exemples et les enseignements donnés par le Nouveau Testament se sont estompés insensiblement pour faire place à des structures et à des institutions religieuses qui n'ont plus rien de commun avec l'Église primitive que décrit l'Écriture. Les anciens sentiers ont été délaissés à un point tel que nombreux sont ceux qui ignorent leur existence première. Voilà pourquoi il est essentiel de revenir aux principes de base de ce christianisme qui guide nos vies spirituelles et matérielles. Les prophètes Ésaïe, Michée et Joël déclarent dans un langage que tout le monde peut aisément comprendre que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée dans les derniers temps, que la parole de l'Éternel sortira de Jérusalem et que de Sion et de Jérusalem viendra le salut pour les échappés que l'Éternel appellera. Dans l'Évangile, selon Luc, Jésus-Christ lui-même déclare que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Dans le livre des Actes, ouvrage relatant les débuts de l'Église primitive, Pierre explique aux membres de l'Église du Christ de Jérusalem que le Saint-Esprit descendit sur les païens, comme il l'avait fait sur les apôtres au commencement. L'effusion du Saint-Esprit avait eu lieu sur les apôtres à Jérusalem le jour de la Pentecôte suivant la résurrection du Christ. C'est pour cette raison que le début du règne de Jésus, de l'Église du Seigneur et de la rédaction de la volonté de Dieu par l'inspiration du Saint-Esprit se situe immédiatement après cet événement. Tout ceci nous amène à souligner que toute Église ou groupement religieux prétendant avoir été fondée avant ou après le jour de Pentecôte de combien les bases mêmes du christianisme sont méconnues, voire totalement ignorées. Les quelques versets dont nous venons de faire la lecture nous étonnent, nous surprennent, nous choquent peut-être, et pourtant, ils ne constituent qu'une très faible proportion d'un enseignement dont la plupart des gens ignorent volontairement ou non la portée réelle. N'est-il pas étonnant de constater combien peu de personnes qui pourtant se croient chrétiennes savent que la Bible est inspirée de Dieu, qu'elle s'applique toujours aussi bien à la vie moderne qu'à l'Antiquité, et qu'elle est la source d'un bonheur spirituel et même matériel profond par l'absolue certitude du salut pour celui qui suit ses enseignements. L'homme moderne vit intensément la minute qui passe, et pourtant, il passe à côté de ce qu'au fond de lui-même, il recherche le plus, la paix intérieure. Pourquoi ne peut-il pas l'atteindre? Tout simplement parce qu'il ne fait pas un retour sur lui-même pour revenir aux vérités premières, parce qu'il ne secoue pas de ses épaules et de son esprit les traditions religieuses, les structures d'une spiritualité organisée, hiérarchisée, dont l'ensemble monolithique et figé n'a plus rien de commun avec le christianisme primitif fondé sur les enseignements de Jésus et de ses apôtres. Que faire? Eh bien, repartir à zéro. Essayer de se dépouiller de toute idée préconçue. D'effacer pour un temps de notre cerveau tout ce qui encombre en matière d'enseignement spirituel humain et de se dire, je veux remonter à la source du christianisme, aux paroles de Jésus lui-même. Alors s'étendra devant vous un horizon vierge, une perspective entièrement neuve et étrangement pure. Vous ouvrirez le Nouveau Testament et lirez par vous-même et pour vous-même, c'est-à-dire sans aucune interprétation humaine, ce que Jésus vous dit, oui, directement, sans intermédiaire, et vous boirez à une source d'eau pure, fraîche et limpide.
Alléluia, 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 alléluia.
Ce programme de méditation biblique vous a été offert par Jacques Marchal, qui vous la présente. Mais qui sommes-nous? Des chrétiens qui ne portent pas d'autre nom. Ni à une organisation centrale, ni à une secte quelconque. Notre unique règle de foi est surtout le papier et le Nouveau Testament. Notre unique chef, Jésus-Christ, seuls ses enseignements et ceux des apôtres sont autorités dans nos cœurs. Nous parlerons de ce que la Bible dit et de notre réflexion à propos de ce qu'elle ne dit pas. Faites-moi part de vos idées, de vos suggestions sur ce que vous venez d'entendre et je vous répondrai personnellement. Le texte de cette émission est à votre disposition. Sans engagement, écrivez à Jacques Marchal, Méditation biblique, boîte postale 2398, 31086, Toulouse, Cedex. Je répète, Jacques Marchal, Méditation biblique, boîte postale 2398, 31086, Toulouse, Cedex, France. Au revoir. À la semaine prochaine. Même